de la montagne à la mer, écoutez Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lucie Delmotte. Lucie Delmotte qui est thérapeute émotionnelle. Bonjour à toi, Lucie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une thérapeute émotionnelle ?
Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir au sein de Fréquence Mistral. Alors moi, je suis thérapeute et du coup, j'accompagne les personnes à mieux s'affirmer, mieux communiquer et acquérir un apaisement émotionnel.
D'accord. Et du coup, tu utilises quels outils pour ça ?
Alors, une multitude d'outils, mais principalement de la psychopédagogie pour expliquer vraiment aux personnes qu'elles apprennent à mieux se connaître, avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes, mais aussi mieux se comprendre et la conscience émotionnelle exprimée. Donc, là, l'idée, c'est d'apprendre à mieux ressentir en sécurité pour acquérir du coup un apaisement émotionnel parce qu'on a vécu les émotions difficiles pendant la séance et du coup on n'a plus besoin d'être envahi toute la journée par de la colère, du stress, de la peur, etc.
Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc Lucie, peut-être qu'on va passer à un cas pratique ou en tout cas essayer de mettre en pratique ta formation.
Complètement. Bah, aujourd'hui, je voulais peut-être vous donner quelques outils pour apprendre à s'affirmer. Et donc s'affirmer, que moi j'appelle l'assertivité, c'est en même temps comment se respecter, comment respecter l'autre et comment se faire respecter. Mmh. Donc, large programme. Et donc, pour ça, bah, je te propose qu'on prenne un petit cas pratique, donc une expérience de vie que toi, tu aurais envie de me partager, sur laquelle on va décortiquer et aller comprendre qu'est-ce qui se passe derrière.
Moi, je sais que tu m'as parlé de ce sujet et en amont, j'ai un petit peu travaillé. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à dire oui très souvent aux gens. Je sais dire non de temps en temps, mais la plupart du temps, je dis oui. Et en fait, souvent, je me rends compte que dans mes relations avec les personnes que je rencontre, je vais dire oui à beaucoup de choses jusqu'au moment où je vais arriver à un moment de trop plein, où j'ai plus envie de dire oui, où ça me saoule. Et là, du coup, souvent, je vais être agressif ou en tout cas m'énerver. Et je me rends compte que ça va créer une brisure, une cassure dans mes relations avec ces personnes que je rencontre parce que justement, ils ne comprennent pas ce non et ça crée une cassure. Et donc, j'ai l'impression de vraiment... de connaître des nouvelles personnes. Alors j'ai mon cercle d'amis proches et tout, mais dans mes nouvelles rencontres, j'ai l'impression souvent que ce schéma il se reproduit et ça me rend triste parce que j'ai l'impression en plus que le fait que je dise non et que ça casse la relation à chaque fois, bah, ça alimente ce truc où j'ai peur de dire non aux gens jusqu'au moment où j'en ai marre de dire oui quoi.
Et donc quand tu dis oui aux personnes, dans les cas que tu me cites, c'est des moments où tu aurais envie de dire non et où que t'arrives pas à dire non.
J'ai pas la sensation, mais je pense que oui, effectivement, j'ai ce réflexe de dire oui au lieu de réfléchir si vraiment ça me convient avant de dire oui.
Ok, donc ce que je comprends, c'est que tu vas dire oui à tout jusqu'à un moment où tu as l'impression que c'est un peu trop et que tu fais trop pour l'autre. Mmh. Et là, bam, tu t'énerves, ou il y a de l'agressivité qui arrive et du coup, bah, l'autre comprend pas et il y a une sorte de cassure qui se crée.
C'est la sensation que j'ai en tout cas, ouais.
Ok, très bien. Eh bien écoute, à partir de ce cas très concret et très précis, je pense qu'on a déjà tous et toutes un peu vécu, je te propose de réfléchir à ce serait quoi le bénéfice pour toi si du coup tu réfléchissais avant de répondre et tu répondais non de temps en temps, oui de temps en temps, mais que tu étais plus aligné avec la réponse que tu donnes.
Mais je pense que si j'arrivais à faire ça, en tout cas d'être plus équilibré dans mes oui et non et que ça soit pas des réflexes, je m'engagerais pas sur des choses que j'ai pas envie de faire. Et je m'engagerai ou en tout cas je donnerai ce que j'ai envie de donner dans la relation et pas plus que ce que je suis prêt à donner parce que des fois ça me fatigue aussi de m'engager sur plein de terrains et sur plein de choses en même temps.
Et ce serait quoi le bénéfice à pas t'engager sur tout et à mieux réfléchir dans les engagements que tu prends?
Peut-être à avoir plus de plaisir dans ma vie quotidienne ou en tout cas dans mes relations.
Ouais, complètement. Il y a aussi le bénéfice d'être plus aligné, d'être plus congruent, c'est-à-dire faire des actes qui sont en accord avec nos valeurs, avec qui on est, et du coup d'être plus authentique. Donc ça, c'est quand même assez sympathique dans les relations à l'autre. Et il y a aussi, peut-être, je ne sais pas si ça t'arrive, mais le bénéfice de ne pas avoir à cogiter sur un comportement. Parfois, on dit oui, et on est là, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis ça prend un espace mental qui est assez énorme, et donc ça peut être un des bénéfices à réfléchir en amont avant de répondre.
Oui, effectivement, ouais. C'est vrai que ça doit être agréable d'être authentique.
Et oui, bon, on l'est tous, hein, quand même, de temps en temps. Alors, à ton avis, quand tu repenses à ces situations-là où tu as plus tendance à dire oui avant de réfléchir si vraiment tu en as envie, ce serait quoi les peurs qui t'habitent ?
Bah, je pense que c'est les peurs de ne pas froisser l'autre, de ne pas le déranger, de ne pas le heurter. Peut-être qu'il y a aussi une forme de politesse de ma part. Je ne sais pas si je ne me mets pas sur un piédestal en disant politesse, mais je pense qu'on m'a appris, enfant, à être très poli, et à très souvent dire oui, ou en tout cas acquiescer, à accepter l'ordre, la hiérarchie, l'institutrice, etc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un réflexe de, pour éviter tout problème, de dire oui et de me conformer à ce qu'on me demande, quoi.
Donc pour toi, être poli, ça veut dire dire oui.
J'ai l'impression, oui.
Bon, ça se questionne. Parce que typiquement, être poli, ça veut dire merci, s'il te plaît. Mais un oui, c'est pas forcément lié avec la politesse. Un non, ça peut être aussi poli qu'un oui.
C'est vrai, mais je sais pas, je pense qu'il y a, une forme d'autorité auquel on a... Enfin, comme si l'autre avait toujours de l'autorité, mais comme si on devait dire oui systématiquement à ce qu'on nous demande, quoi.
Donc là, ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est que tu vas mettre l'autre en posture haute, et que du coup, ça va créer une sorte d'autorité inconsciente pour toi, à laquelle tu vas répondre oui. Parce que c'est dans ton éducation, dans ton histoire de vie, qu'on t'a appris à faire ça. Ok. Donc du coup, j'entends la peur de pas vexer l'autre, etc. Il y a aussi peut-être la peur du conflit que j'entends dans « pas vexer l'autre », s'il se vexe, c'est quoi la conséquence? C'est qu'il y aura peut-être un conflit.
Effectivement, oui.
D'accord. Ou ça peut être « l'autre va me rejeter », ou « je vais être exclu ». D'accord. Et donc là, il y a plein de peurs, en fait, qui vont se créer, et ça chez tout le monde, et on l'a tous déjà vécu. Et selon ton histoire, tu as certaines peurs qui vont remonter dans les situations où toi, tu as du mal à t'affirmer.
D'accord.
Les situations où tout va bien, où tu peux t'affirmer, il n'y a pas de peur qui est générée. Par contre, la situation où on n'arrive pas à s'affirmer, il y a toujours une peur derrière.
D'accord.
Donc, par exemple, pour les auditeurs et auditrices, s'il y a une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à être qui vous êtes, à dire ce que vous pensez, essayez de réfléchir à la peur qu'il y a derrière. Et donc, la peur, ça peut être de vexer l'autre, mais ça peut aussi être d'être vexé. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, il peut y avoir la peur du rejet ou de rejeter l'autre. La peur de l'humiliation, la peur du jugement. D'accord. Et ça, tout ça par rapport à notre histoire de vie, des moments où on a pu s'affirmer. Et en fait, on a une réponse violente, ou on a eu un conflit, ou des conséquences, la peur des conséquences. Là, tout ce que tu me dis, la peur de vexer l'autre, c'est la peur des conséquences si moi, j'ose dire qui je suis et m'affirmer. Donc, réfléchir aux peurs. Donc, si on revient au fait que donc, toi, tu as l'air de dire oui, de manière, on va dire, assez habituelle, sans trop y réfléchir, qu'est-ce que tu fais d'autre quand tu n'arrives pas à t'affirmer, autre que dire oui? Est-ce qu'il y a d'autres attitudes que tu adoptes?
Des fois oui, je vais pas répondre à un message aussi, si c'est un message qui me convient pas ou que je reçois un message de quelqu'un qui me demande quelque chose que j'ai pas envie de faire, au lieu de dire non directement, je vais pas répondre, je vais ghoster la personne plus ou moins pendant 3-4 jours, une semaine, puis ensuite répondre et dire oh pardon, j'avais pas vu le message, alors j'ai très bien vu le message mais je l'ai pas ouvert. Et je pense que je suis pas le seul à le faire, hein, parce que je sais que j'ai des amis qui font la même chose.
Bravo.
On se souvient des déménagements, on n'oublie pas, mais je pense que ouais, des fois il y a ce truc là de peut-être d'esquiver en tout cas la réponse ou la demande d'autrui.
Ouais, complètement. Donc là c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on n'arrive pas à affirmer, on rentre dans ce qu'on appelle une attitude refuge. Donc à bien comprendre que ça reste un refuge, donc c'est positif en soi parce que ça nous protège, parce que typiquement ça te protège de toutes les peurs que tu as cité et que j'ai pu citer. Donc on rentre dans une attitude refuge qui est que en fait on s'oublie un peu pour éviter de concrétiser la peur. Donc le conflit, les conséquences, etc. Il y a trois types d'attitude refuge. La première, c'est la fuite. Et donc c'est exactement ce que tu décris. Soit c'est on dit oui à tout, oui, alors qu'on n'a pas envie, parce qu'il y a des gens qui disent oui à tout, ils ont envie, tout va bien. D'accord. Mais si on dit oui à tout et qu'en fait on n'a pas envie, et qu'en fait on se force, ou qu'on ne répond pas, on est dans une attitude de fuite. Ça peut être aussi des postures de bras croisés, un regard fuyant. Donc c'est une multitude, on va dire, de micro-expressions qui vont nous faire caractériser la fuite. Donc si quelqu'un répond pas à un message, peut-être qu'il est juste en vacances et qu'il capte pas, et tout va bien. D'accord. Par contre, s'il répond pas, qu'on le relance, alors qu'on l'a vu entre-temps, ou par exemple, je sais pas, vous posez une question lors d'un entretien d'embauche ou lors d'un entretien individuel annuel avec votre salarié, et que vous posez des questions et que la personne dit oui, fuit du regard, a une posture fermée, et parle très bas. Par exemple, des gens à qui on demande de répéter parce qu'on les entend pas, ça peut être soit la personne a une voix très basse, soit ça plus ça plus ça, ça peut caractériser une attitude de fuite. Donc dans ces cas-là, de quoi tu aurais besoin toi par exemple quand tu as une attitude de fuite?
De quoi j'aurais besoin, c'est-à-dire qu'est-ce que
pour re-être affirmé par exemple?
Le fait peut-être d'assumer directement que j'ai pas envie, non?
Ouais. Et de quoi tu aurais besoin pour réussir à affirmer ça de la part de l'autre?
Qui me laisse la possibilité soit de l'exprimer, soit que moi je prenne l'initiative de l'expliquer, non?
Ouais. Alors, pour arriver à ça, parce que sinon tu le ferais naturellement. Donc il y a un besoin là qui n'est pas rempli. Donc là, souvent quand on est en fuite ou quand l'autre est en fuite, si vous identifiez ça chez l'autre ou chez vous, derrière il faut le rassurer. D'accord? Donc le rassurer, ça peut être par exemple, on rappelle un cadre. Donc le cadre, ça veut être moi je te propose d'aller au kebab avec moi. Et en fait, je peux te dire, si tu viens pas, t'inquiète pas, moi j'irai au kebab toute seule.
Oui, voilà, oui.
Du coup, toi, T'as plus cette peur de ah bah attends, il va m'abandonner, ou il y aura des conséquences si je dis non ou autre, parce que moi je t'ai rassuré sur le fait que de toute façon j'irai toute seule. Mmh. D'accord. Si c'est l'autre, c'est pareil. Si vous voyez que l'autre il répond pas, vous pouvez renvoyer un message. T'inquiète pas, si t'as pas envie, tu peux me le dire, ça va rien changer, ou voilà. Enfin, mmh. des petites phrases qui rassurent la personne. Donc là, tu nous as dit, je dis oui, et à un moment, je deviens agressif ou je m'énerve. Mmh. D'accord. Donc ça, c'est une deuxième attitude qu'on prend quand on n'est pas affirmé, ça s'appelle l'agressivité.
D'accord.
Et donc là, c'est la personne qui parle fort, qui a des gestes brusques, qui va se mettre à insulter. Bon, là, on est vraiment sur une grosse colère.
Ouais,
qui
je peut, vais pas jusque-là. Tu vas pas. Je vais être sec, mais je veux pas insulter les mères non plus. Ouais.
Tout va bien. qui va parler en le tu qui tue. D'accord, mmh. Moi j'adore cette expression. Donc c'est à bataille qu'à faire ci, t'avais qu'à faire ça, au lieu de parler en son jeu. Etc. Donc vous voyez, je pense assez bien le profil de l'agressivité. Mmh. Là, quand vous êtes face à quelqu'un qui rentre dans une attitude d'agressivité, ou que vous rentrez dans une attitude d'agressivité, pensez à reformuler.
Reformuler comment ?
Donc par exemple, s'il y a quelqu'un, je sais pas, qui vous dit de toute façon tu rentres tout le temps en retard, moi j'en peux plus, on se voit jamais, etc. Au lieu de répéter ah bah j'ai compris que je rentre tout le temps en retard, là, ça n'avance à rien, il va dire bah oui je viens de te le dire. Bon, là, voilà, on tourne en rond. Vous pouvez, donc déjà, vous laissez la personne finir, d'accord ? Elle est énervée, vous la laissez terminer, vous ne lui coupez pas la parole. Souvent, une personne qui est, on va dire, énervée ou agressive, c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être entendu ou pas être vu. Mm-hmm. Donc, laissez-lui cet espace. Et à la fin, quand il a fini, vous reformulez pour bien lui montrer que vous avez compris ce qu'il a dit. Mm-hmm. Donc, par exemple, sur « de toute façon, t'es tout le temps en retard, on n'a jamais de temps ensemble, moi, j'en peux plus de cette relation, etc. » Vous pouvez reformuler en disant « bah, j'ai l'impression que t'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble ou que je rentre plus tôt. Mm-hmm. » D'accord ? Et c'est toujours une hypothèse, on n'en sait rien, mais comme ça, ça recrée du dialogue et ça montre à l'autre, ok, j'ai entendu ton besoin, j'ai pas dit que j'étais en capacité de le remplir, mais en tout cas, je t'ai entendu. D'accord. Et généralement, ça fait redescendre les personnes.
D'un étage, ok.
S'il y a de la violence, etc., vous pouvez aussi vous éloigner, dire, ok, là, c'est trop pour moi, on en reparle plus tard, là, j'ai besoin de digérer.
Ouais, mais des comme fois, ça, oui, c'est vrai que la colère n'est pas bonne conseillère dans les discussions.
Hein. Voilà, parfois, quand c'est trop fort, quoi.
Et donc, et alors, excuse-moi de te couper, mais sur le fait de dire non, du coup, ou en tout cas d'équilibrer, comment on fait pour on fait quoi ? On tourne sa langue cette fois dans sa bouche à chaque fois qu'on doit dire oui, ou on fait quoi ?
Bah, par exemple, typiquement sur le moment où tu vas dire oui, tu peux dire attends, est-ce qu'en fait j'ai vraiment envie ? Mm-hmm. Ah bah non, en fait j'ai pas envie. Alors pourquoi je dis oui ? Ah, en fait j'ai peur qu'il me rejette, mm-hmm. ou j'ai peur qu'il me repropose plus rien. Ou que je sois plus son ami. Bah, ça, tu peux essayer de te rassurer. En fait, Yacine, tout va bien. La dernière fois, t'as dit non, ça s'est bien passé. Donc là, tu peux essayer de te rassurer, toi. Si t'y arrives pas, tu peux aussi demander à l'autre. Ce soir, je suis fatigué. Si je te dis non, est-ce que c'est galère ou est-ce que c'est OK ? Mm-hmm. Tu poses la question. Peut-être qu'il dira, ah non, mais t'es grave relou. Et là, bon, bah, tu diras oui, parce que tu comprends que ça vexe l'autre. Ça se trouve, il dira, bah, moi, ça tombe bien, j'étais fatigué aussi. Ça tombe bien que tu me dises non. Ça m'autorise, moi aussi, à te dire non.
OK, ouais. Et alors, je rentre dans un truc encore plus précis, hein, mais parce que j'ai besoin peut-être de détails avec des exemples concrets. Ouais. Et moi, j'organise des soirées où j'invite des humoristes à faire des passages et de l'humour. Et des fois, j'ai des humoristes qui m'écrivent et que je ne peux pas faire jouer, soit parce que je pense qu'ils n'ont pas le niveau, soit parce que je n'ai pas d'affection particulière pour cette personne. Souvent, j'essaie d'enlever ce côté affection, mais souvent, c'est une question de niveau où je me dis cette personne, elle n'a pas encore le niveau que je pense nécessaire pour jouer sur ce plateau-là. Je dis pas être Gad Elmaleh hein, quand je fais ça, mais, ouais. Mais du coup, j'ai du mal souvent à présenter le nom aux personnes et à l'expliquer parce que je me sens mal à l'aise de les refuser. Tout comme j'aime pas être refusé, je sais qu'ils vont le vivre comme quelque chose d'assez dur. Est-ce que tu aurais une idée pour faciliter justement le nom dans ces moments-là ? Comment on peut...
Le nom, alors, c'est toujours difficile de donner un nom. D'accord ? Donc, quand, moi, avant, quand on me donne un nom, j'étais là, mais de toute façon, je suis nul, l'autre m'a dit non, c'est horrible, je suis une merde, etc. Bon. J'ai fait 6 ans de thérapie, depuis j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec moi. Et du coup, quand l'autre me dit un nom, je me dis waouh, c'est tellement dur à dire un nom que déjà, voilà, enfin, ok, c'est propre, on va dire. Et c'est pas contre moi. Mm-hmm. Donc, ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que quand on donne un nom, c'est pas contre l'autre, c'est pour soi. Mm-hmm. C'est parce qu'on est fatigué, c'est pour remplir des besoins à nous, et c'est pas pour rejeter l'autre. Donc là, c'est pareil, toi, là, typiquement, tu vas dire non, peut-être pour remplir un besoin de qualité ou un besoin d'exigence, je sais pas, que sais-je.
À une direction artistique, comme on dit dans le
milieu. Une direction artistique, enfin voilà. Et donc ça, tu peux l'expliquer à l'autre et tu peux lui dire, écoute, je suis désolé, pour cette fois-là, ça va pas être possible parce que bah, soit ça répond pas à la ligne artistique, soit ça rentre pas dans nos critères, etc. C'est pas du tout contre toi, mais j'ai un planning à respecter, enfin voilà. Mm-hmm. Tu peux aussi utiliser un cadre externe et pas dire, bah en fait, c'est juste que moi, je te trouve nul. Parce qu'en fait, ça, c'est hyper subjectif et ça n'a pas d'intérêt, c'est pas constructif.
Je pense pas que ça soit une bonne réponse en plus de ça, mais effectivement, c'est juste des fois de se dire, bah, ça correspond pas à ce que j'imagine pour la soirée.
Exactement, et ça suffit. Et en fait, tant mieux. Parce que si tu lui dis oui et qu'il vient et qu'il est complètement, on va dire, à côté par rapport aux autres qui ont un peu le même style d'humour, parce que l'humour, ça reste subjectif, etc., bah, en fait, ça va être compliqué pour toi à gérer derrière.
Oui, et surtout, je l'ai eu fait d'accepter des gens par sympathie, on va dire, et ça a été à chaque fois des regrets. Donc, je me suis dit, bon, je ne peux plus faire ça comme ça.
Bah ouais.
Ok, donc c'est de réfléchir, d'expliquer donc le pourquoi, on explique à l'autre.
On n'est pas obligé de se justifier. C'est pas une obligation. Par exemple, si tu me dis ce soir, Lucie, est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi ? Et je te dis non, ce soir, ça va pas être possible. Je suis pas obligé de te dire parce que je suis fatigué ou parce que je vois déjà quelqu'un ou ça m'appartient.
Ouais.
D'accord ? Je peux juste te dire non, ce soir, c'est pas possible. Et par contre, ce qui peut être sympa, c'est de dire mais par contre, la prochaine fois, je te recontacte et on va se caler un autre moment.
Ouais, ok.
Pour rassurer l'autre que c'est pas juste contre toi, c'est ce soir, je ne peux pas, mais j'aurai une autre disponibilité plus tard et on se reverra.
D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien de l'expliquer comme ça.
Voilà, et du coup, sur les attitudes refuge, pour la troisième, donc la première, c'est la fuite, on rassure, que ce soit soi ou l'autre. La deuxième, agressivité, on reformule, pour soi ou pour l'autre. Et la troisième, la manipulation. Alors moi, je l'adore parce que c'est hyper galvaudé, la manipulation. On a l'impression qu'on parle direct de pervers narcissique, etc. Pas du tout. C'est des attitudes qui sont réflexes, d'accord ? On manipule tous et toutes de temps en temps parce qu'il ne faut pas oublier que les attitudes refuge sont des réflexes qu'on a. D'accord, c'est vraiment, si vous voyez la biche par exemple avec le lion dans le, enfin la biche avec le lion, ouais, bon, on va partir là-dessus, la biche avec le lion dans la forêt par exemple, elle mange paisiblement, d'un coup bam, elle entend un bruit, elle a peur, d'accord, donc là c'est comme on a vu tout à l'heure, les peurs qui m'attaquent, je sais pas quoi, et là elle a trois solutions, d'accord, soit le lion il est assez loin, elle part en courant, elle fuit, soit le lion il est trop proche, elle attaque, elle se défend, donc agressivité, soit manipulation, elle essaie d'esquiver.
D'accord.
On fait la même chose. En fait, on est sur des sortes d'animaux sociaux. Et ça, c'est des repères archaïques qu'on a depuis très longtemps, à l'époque, on va dire, des hommes de la jungle, quoi. Donc, on a ancré ça en nous. Et donc, du coup, c'est vraiment des réflexes qu'on a. Donc, l'idée, c'est pas d'éviter le réflexe, parce qu'il est là. C'est d'en prendre conscience pour éviter de rentrer tout le temps dans le réflexe. D'accord. Parce que peut-être que le lion, aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Il va peut-être pas nous bouffer. D'accord. Donc, on n'est pas obligé ni de fuir, ni d'être en agressivité, ni de manipuler. On peut juste dire, bah, en fait, coucou le lion, bah, là, en fait, tranquille, tu restes là où t'es et tout va bien. D'accord.
C'était le genre de La Fontaine de Marseille. <C'était>...
Et donc, la troisième attitude, c'est la manipulation. Donc, la manipulation, c'est vraiment quand, par exemple, on dit oui à l'autre, mais on change toutes les conditions.
Ouais.
Donc, moi, j'adore, par exemple, l'exemple de « Coucou, est-ce que tu veux venir manger un kebab à 18h sur la Canebière ?» Et toi, tu vas répondre « Ah ouais, trop cool, par contre, plutôt à 14h, plutôt à Castellane et plutôt on va au restaurant. »
D'accord.
Donc, tu dis oui, mais tu changes tout.
Oui, du coup, c'est un oui ou c'est pas vraiment oui, quoi. C'est...
Exactement. Et donc là, pour identifier une attitude de manipulation chez soi, c'est, bon, c'est plus difficile parce qu'on est dans l'attitude directe, mais par contre, chez l'autre, c'est quand on est perdu. Et quand on se dit, j'ai pas compris ce que l'autre m'a dit.
D'accord. Okay.
Si vous n'avez pas compris, ne perdez pas confiance et vous dites pas, en fait, c'est moi qui suis débile, je comprends rien. Dites-vous, ok, il y a un truc qui est pas clair.
D'accord. D'accord.
Et donc, posez des questions. Et donc là, par rapport à la manipulation, ce qu'il faut faire, c'est clarifier.
Clarifier, donc demander, mais pourquoi tu veux pas manger le kebab à cette heure-là ou comment...
Alors, clarifier, surtout pas des questions ouvertes. Donc, merci d'avoir fait l'erreur. On pose pas une question, mais du coup, t'as envie de quoi ? Bah attends, je te l'ai déjà dit, je comprends pas. Hop, c'est reparti pour un tour. Hein.
D'accord.
D'accord. Quand on se met en attitude de manipulation, souvent on est à l'aise, on parle bien, on est tranquille, sauf qu'on sait pas trop ce qu'on veut. Donc là, quand je dis clarifier, c'est poser des questions fermées. Est-ce que tu veux manger un kebab ou pas ? D'accord. Oui, non. Est-ce que tu veux le manger à 18h ou pas ? Oui, non. Est-ce que tu veux le manger à Canebière ou à Castellane ? Ok. Donc tu vas aider l'autre à clarifier.
J'adore pas. Je suis désolé, je rigole, mais parce que j'ai l'impression qu'on est sur une métaphore d'un couple qui se propose un plan,
plan
sexe ce soir. J'imagine le kebab en même temps, c'est difficile. Mais oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Donc voilà, le but c'est vraiment de faire des micro clarifications pour amener l'autre à clarifier parce que lui-même ne sait pas.
Oui.
D'accord. C'est comme tu dis, je dis oui directement, eux de réfléchir. Bah, est-ce que j'ai vraiment envie ?
Ouais.
Bah, en fait, toi tu dis oui, mais l'autre il va manipuler, puis l'autre il va être agressif. Et donc moi j'aime bien prendre par exemple l'exemple du cinéma. Est-ce que tu veux venir au ciné avec moi ? Bon bah l'autre en face soit il vous dit oui soit il répond pas. Et quand il est avec vous, bon en fait il est pas là, il est sur son téléphone etc. Il a pas envie d'être là. Bon bah là on a une attitude de fuite. Soit la personne est agressive, ah t'es chiant, tu me proposes tout le temps un ciné, de toute façon t'as pas envie qu'on parle, ça m'énerve. On a rien demandé, on a juste proposé un ciné. Soit on a le oui trop bien le ciné, puis on change tous les critères.
Okay. Ouais, je vois très bien.
Et donc là l'idée c'est juste de prendre un petit temps pour se poser et se dire, ok, moi, de quoi j'ai envie ? Et donc, soit je me rassure, ok, en fait, je suis fatigué, donc je vais dire à l'autre que je suis fatigué, je lui propose quelque chose d'autre. Soit je reformule, bon, en fait, bah, j'ai besoin de repos ce soir. Donc, ok, ça m'aide à pas m'énerver et à rentrer un peu dans l'agressivité. Soit je clarifie, donc pareil, bah, en fait, je vais bien le ciné, mais avant 18h, parce que j'ai envie de me coucher tôt. Et voilà.
Donc, c'est des solutions simples à un problème qui est assez compliqué et divers, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ouais, c'est juste désamorcer à chaque fois les réflexes qu'on a, nos réflexes primitifs.
Exactement. Et à chaque fois, c'est parler de soi. Et d'accord. C'est ça qui n'est pas facile.
Et de mettre le jeu à la place du tu qui tu.
Exactement. Merci d'avoir repris cette phrase.
Dès que tu as dit le tu qui tu, je me suis dit, je vais l'utiliser tous les jours, ce tu qui tu.
Okay. Est-ce qu'il te reste des questions ?
Ben non, je pense que c'est assez clair pour aujourd'hui, mais je vais préparer mes prochaines pour tes prochaines interventions, en tout cas.
Parfait. Je pense que la prochaine fois, on peut parler de la communication non violente, qui est un autre outil pour essayer d'exprimer parfois des choses difficiles à dire à l'autre.
Hâte que tu arrives à convertir les 800 000 Marseillais, et notamment ceux qui sont sur la route, mais j'ai hâte de le voir.
Bon, sur la route, on les laissera crier.
On reste à Marseille. Merci à toi, Lucie, et au plaisir de te retrouver pour ta prochaine intervention.
Merci beaucoup.